On a choisi un peu ce thème pour ce soir parce que nous avons tous un certain sentiment d'impuissance comme individu devant les événements dans le monde, mais nous devons quand même vivre dans ce monde. On n'a pas un choix de vivre dans un autre monde qui n'a pas ses conflits et tout ça. Et il faudrait donc peut-être réfléchir quelques instants à propos de la relation qui existe entre l'individu et la société, surtout, mais pas uniquement, quand il a des grandes perturbations sociales. D'abord, juste pour donner un peu de contexte, il a fondamentalement trois philosophies, si vous voulez, mais à propos de la relation entre l'individu et la société. Il y a ceux qui disent que la société, c'est presque tout, que l'individu est presque entièrement, sinon entièrement déterminé par la société, enfin, d'abord sa famille, la façon qu'il est élevé, tout ça. Ça s'appelle le déterminisme social. Marx, par exemple, était un déterministe social. Il pensait qu'il pouvait contrôler complètement le comportement de l'individu en ajustant la société d'une certaine façon. L'autre extrême, évidemment, c'est l'individualisme extrême qui dit que la société n'est rien qu'une arène dans laquelle les individus jouent. Il y a des individus évidemment plus doués et moins doués, et donc c'est les individus les plus doués qui déterminent enfin, l'histoire, si vous voulez. Par exemple, un penseur qui avait cette philosophie, c'était Nietzsche. Nietzsche, c'était extrêmement individualiste. Et c'était la base philosophique du fascisme, enfin, qui encore une fois dit qu'une certaine élite a le droit sur les autres parce qu'ils sont supérieurs de nature, etc., etc. Et puis, donc, le point de vue Baha'i, c'est qu'il a une profonde influence réciproque entre l'individu et la société. On pourrait dire que c'est une philosophie interactive, c'est ni individualiste ni déterministe. C'est interactif. Et nous croyons qu'un individu peut avoir une très grande influence sur la société. Shoghi Effendi a même dit que une âme vraiment enflammée de l'amour de Dieu pour changer tout un continent. Donc il a parlé, il a plusieurs citations dans les écrits Baha'i qui parlent de la très grande influence que peut avoir un individu si cet individu est un instrument de Dieu. Évidemment, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, mais si nous devenons des instruments pour Dieu, comme il dit, une âme enflammée de l'amour de Dieu, peut influencer grandement la société. Et on voit des exemples, comme par exemple Mandela en Afrique du Sud, qui lui seul a presque triomphé sur tout le système qui est là-bas. Donc on voit des situations où un individu a joué un très très grand rôle. Mais il a d'autres exemples de l'histoire où les individus semblent être complètement submergés par une vague, comme par exemple le communisme, enfin l'établissement du marxisme en Union soviétique. Enfin, ça avait englouti tout le monde, il n'avait absolument rien à faire du point de vue individuel. Tous les individus qui essayaient de résister à ça ont été éliminés et tout. Alors, donc, ça c'est le contexte général. Du point de vue Baha'i, nous croyons à l'interaction profonde entre l'individu et la société. Alors, ce dont je voulais parler un petit peu ce soir, c'était simplement l'attitude le plus saine, le plus efficace de l'individu vis-à-vis des perturbations sociales. D'abord, la question se pose d'où vient les perturbations. So I was looking for the book that I had, and I brought it out. I thought, okay. Et Bahá'u'lláh dit d'abord que l'individu doit... Bon, encore une fois, il y a des extrêmes. Un extrême, c'est l'apathie, c'est l'indifférence à ce qui se passe dans la société. C'est-à-dire, l'individu se construit une petite vie à l'abri, enfin le plus possible, à l'abri des perturbations sociales, et il s'en fout du reste, n'est-ce pas? C'est l'indifférence. Alors, ce point de vue-là est refusé dans la foi bahá'í. Alors, juste un passage de Bahá'u'lláh, il dit « L'omniscient médecin tient sous son droit le pouls de l'humanité. Il diagnostique la maladie et, en son infaillible sagesse, il prescrit le remède. Tout âge a son problème propre, toute âme son aspiration particulière. » Donc, il reconnaît que ce n'est pas une grande chose uniforme, que chaque âge a ses problèmes particuliers, chaque individu a, pour ainsi dire, ses problèmes ou ses préoccupations particulières. Le remède qui convient aux afflictions du présent jour ne saurait être celui que réclameront les maux d'un âge ultérieur. Enquérez-vous soigneusement, donc là il parle aux individus, enquérez-vous soigneusement des besoins de l'âge où vous vivez, et que toutes vos délibérations portent sur ce que cet âge exige et requiert. Donc, c'est comme une sorte de devoir moral des Bahá'í. De s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, pas simplement se retirer et dans l'indifférence ou simplement se mettre à l'abri des problèmes. Par contre, il y a d'autres passages de Bahá'u'lláh où il dit « Ne soyez pas perturbés ou troublés dans votre foi par les perturbations dans le monde. Ne soyez pas dérangés par ces choses-là. » Et je pense que philosophiquement, ça s'insère dans le contexte suivant. Il faut qu'en tant qu'individu, on accepte l'imitation de notre champ d'action. C'est-à-dire, c'est inutile de s'user pour des choses qu'on ne peut absolument pas contrôler, n'est-ce pas? C'est en quelque sorte une forme de soumission à la volonté de Dieu. Donc, l'autre extrême de l'indifférence, ça serait la personne qui est tellement préoccupé de tous les problèmes qu'il se brûle complètement. On voit ce phénomène aussi. Évidemment, peut-être moralement, c'est mieux une personne qui se brûle en cherchant à aider les autres ou à changer les injustices qu'une personne qui reste dans l'indifférence. Mais la personne qui se brûle, tout simplement, n'est pas efficace, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on peut admirer sa motivation de vouloir aider les autres. Mais s'il essaie de régler tous les maux en Afrique, s'il habite ici au Canada, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Il peut évidemment attirer l'attention aux injustices, etc., etc. Il peut poser certains gestes. Mais il a maintenant, comme nous savons tous, en lisant dans le journal, qu'il a une famine et des massacres au Soudan. Alors, on peut s'asseoir ici ce soir en sachant que demain, un certain nombre, peut-être des milliers de personnes vont mourir au Soudan, ok, dans cette situation, et nous ne pouvons tout simplement rien faire pour empêcher que ça arrive. On sait que ça va arriver, mais on ne peut rien faire. On peut prier, bien entendu, on peut prier. Mais il n'y a aucune action efficace que nous pouvons poser ce soir, maintenant, pour éviter que demain, il va y avoir sans doute des centaines, sinon des milliers de gens qui vont mourir demain. Donc, il y a aussi donc, la reconnaissance des limites de notre champ d'action, si vous voulez, de notre efficacité possible d'action. Qui, encore une fois, est, à mon avis, une sorte de forme de soumission à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, en quelque sorte, notre désir de changer les choses peut être égoïste. C'est-à-dire, ça peut être une recherche de pouvoir, un peu cachée. Alors, autrement dit, on peut se dire, en fait, moi, je devrais pour pouvoir contrôler les choses-là. Donc, on se fâche envers Dieu parce qu'on ne peut pas le contrôler. Et ça, c'est le genre de philosophie des gens qui disent, mais voilà, comment est-ce qu'un Dieu juste pourrait admettre toutes ces souffrances dans le monde? Alors, ils se tournent contre Dieu au nom de toutes les souffrances dans le monde. En quelque sorte, ils se disent, je suis plus moral que Dieu. Si j'étais Dieu, je n'admettrais pas toutes ces souffrances. Dieu les admet. Donc, Dieu est moralement inférieur à moi. J'ai une plus grande conscience que Dieu. Parce que je ne tolérerais pas ça. Donc, ça serait, comme j'ai dit, à mon avis, encore une fois, une sorte de forme d'égoïsme. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver l'attitude, on peut dire moyenne ou appropriée, entre ces deux extrêmes? Ici, Baha'u'llah dit une chose intéressante. Il dit, considérez les troubles qui, depuis tant d'années, affligent la terre et le profond désarroi qui s'est finalement emparé de ses peuples. Le monde n'a cessé d'être ravagé par la guerre ou frappé des calamités imprévues et soudaines. Mais bien qu'il soit ainsi plongé dans la misère et la détresse, personne n'a pris le temps de chercher les raisons d'un tel état de choses. Chaque fois que le vrai conseiller a voulu donner un avertissement, voyez, tous l'ont dénoncé comme un semeur de discorde et ont nié la légitimité de ses droits. Il parle évidemment de lui-même. Donc, il dit, tout le monde reconnaît tous ces désastres, mais il y a peu de gens, dit-il, qui réfléchissent sur les causes. Alors, ça veut dire qu'il y a des causes. Ça veut dire qu'il y a des causes. Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est un peu la chanson suivante. Ben, l'homme est de nature égoïste. Les hommes sont des professeurs, les profiteurs, les hommes sont des... S'ils peuvent chercher un avantage sur un autre, ils vont le faire. Et puis voilà, c'est la source de tous les problèmes. C'est que les gens sont de nature égoïste, c'est la nature humaine, on ne peut pas changer ça. Alors, là, on peut poser quand même la question suivante. Si l'agression et la guerre et le conflit est tellement la nature humaine, pourquoi est-ce qu'on en souffre tant? C'est-à-dire, demandez le tigre s'il souffre quand il dévore un autre animal, n'est-ce pas? Je vais demander le tigre, mais est-ce que vous avez un peu de remords quand vous... Je dis, mais non, j'aime bien ça, bon, ça goûte bien, et puis je jouis de ma puissance sur cet animal, etc. C'est la nature du tigre d'être agressif. Mais écoutez, les hommes, un à un, pas en groupe, mais un à un. Chacun dit, mais posons la question, est-ce que vous voudriez un monde où il n'y a plus ces conflits? Est-ce que vous aimeriez un monde de paix, un monde de respect, de coopération? Tout le monde va répondre oui à ça. Tout le monde, même les gens qui sont en train de faire les guerres, etc., ils disent oui, on est obligé de faire la guerre pour défendre notre cause et tout ça, mais on aimerait mieux avoir un monde de paix, bien sûr. Alors, donc, je prétends, et la foi Baha'i prétend, que la nature humaine n'est pas fondamentalement agressive. L'agression et l'égoïsme sont des mécanismes qui entrent en jeu quand les gens sont sujets à certaines choses, c'est-à-dire à certaines frustrations. Donc, il y a des raisons pourquoi les gens deviennent agressifs, qu'ils font des guerres et tout ça. Ce n'est pas simplement, ce n'est pas fondamentalement parce que individuellement, les gens sont de nature agressive, qu'ils adorent aller... D'ailleurs, dans un livre que j'ai lu récemment, il y a un passage très intéressant. d'un discours entre Göring, l'Allemand qui a été pendu à Nuremberg. Il a été le plus haut gradé des nazis qui a été jugé à Nuremberg, Hermann Göring. C'était un adjoint, un premier adjoint à Hitler. Et un des juges, enfin bon, ou des juristes, enfin, je ne pense pas que c'était le juge, c'était un des juristes. Et ils avaient dit à Göring, ils disent, mais vous savez, je connais le peuple allemand, j'ai beaucoup d'amis allemands, et les Allemands que je connais, ils ne voulaient pas la guerre. Il dit, les gens ne voulaient pas la guerre. Et Göring aurait répondu, mais bien sûr que non. Il dit, les gens seraient idiots de vouloir la guerre. Il dit, prenez un petit fermier, qu'est-ce qu'il a gagné dans la guerre? Le mieux qu'il puisse gagner, c'est de passer la guerre sauve, n'est-ce pas? Sans perdre sa terre et sa femme et sa maison, sa vie, n'est-ce pas? Il dit, bien sûr, personne n'a rien à gagner par la guerre. Il dit, c'est pourquoi il faut les manipuler pour faire la guerre, pour nos fins. Donc, évidemment, il faut que les gens apprennent à ne pas se faire manipuler. Alors donc, je saute directement à une certaine conclusion. Je prétends que la cause principale de ces conflits et ces perturbations, c'est l'idéologie. Pas une idéologie particulière, mais toute idéologie. L'idéologie, c'est la croyance que certaines doctrines ou certaines idées sont plus importantes que l'être humain. Ok? Dès que j'accède à cette croyance qu'il y a certaines doctrines qui sont plus importantes que l'être humain, alors je me sens moralement justifié à tuer les êtres humains ou à faire la guerre ou à opprimer les êtres humains pour propager ces doctrines. N'est-ce pas? Parce que c'est évidemment une règle morale que les valeurs supérieures doivent dompter les valeurs inférieures, ou retourner la chose, les valeurs inférieures doivent être sacrifiées pour les valeurs supérieures. Si je crois vraiment qu'un être humain est à moins de valeur que telle ou telle doctrine, alors j'ai le droit, moralement, selon mon point de vue, de sacrifier l'être humain pour la propagation de ces doctrines. Et c'est l'histoire de la race humaine. C'est l'Inquisition en Espagne où on voyait les chrétiens, même les prêtres de l'Église, les ecclésiastiques de l'Église, qui brûlaient les confrères chrétiens parce qu'ils n'adhéraient pas aux doctrines obscures que même personne ne comprenait, de la façon à ce qu'on l'Église jugeait à propos. Et ça, une religion où le principe de base, tout le monde est d'accord, est l'amour de son prochain et le sacrifice les uns pour les autres. Comment au nom de Jésus, qui a prêché que l'amour, il n'a pas un seul mot dans toute la Bible qui donne justification à cela, mais les gens, le pape même, au nom de l'Église, le pape de l'époque, n'est-ce pas, au nom de l'Église, instaure une campagne qui a brûlé des dizaines, des centaines de milliers de gens, simplement parce qu'ils étaient tenus comme hérétiques, et hérétiques, c'était même pas défini. C'est-à-dire qu'ils étaient hérétiques parce qu'ils ne croyaient pas, ils ne pouvaient pas, un pauvre type qui est illettré, qui travaille de lever le soleil jusqu'au coucher du soleil pour garder le corps et l'âme ensemble, etc., pour nourrir sa famille. Puis on lui demande, mais est-ce que vous croyez à la ceci, cela, enfin une doctrine quelconque, il dit, je ne sais pas, ben, dites-moi ce qu'il faut croire, je vais le croire. Non, mais ce n'est pas assez. Vous êtes contaminé, il faut vraiment croire de bon cœur. Ben, dites-moi quoi, je croirai de bon cœur. Non, mais ça ne suffit pas, etc. Et la même chose a été dit par les dirigeants communistes, stalinistes, Malenkov. J'ai une citation de Malenkov. où vers la fin, après qu'ils avaient massacré des millions de personnes, il avait quand même une personne dans le Politburo qui a osé demander à Malenkov, mais quand même, certains de ces gens-là étaient innocents, n'est-ce pas? Enfin, évidemment, la plupart, ils étaient presque tous innocents, mais en fait, la personne osait simplement dire, mais certains de ces gens-là étaient innocents. Et Malenkov a dit, mais bien entendu. Il dit, mais ce qu'il fallait, c'était garantir l'avenir de l'humanité. Et l'avenir de l'humanité, c'était la réussite de la glorieuse révolution communiste. Alors, il fallait non seulement supprimer les contre-révolutionnaires, mais même des gens qui pouvaient avoir des tendances inconscientes que seulement nous pouvions détecter, des tendances contre-révolutionnaires. Il faut soigner non seulement le présent, mais l'avenir, n'est-ce pas? Mais l'avenir, n'est-ce pas? Alors tout ça, c'est le langage d'idéologie. Est-ce que vous pensez que Staline a perdu une nuit de sommeil à cause de tous ces gens qui l'ont massé, 30 millions de personnes, selon les dernières statistiques, plus que la population du Canada actuel? Et ça, ces statistiques peuvent varier, mais on sait certainement que 20 millions étaient tués, et un autre 10 millions étaient envoyés dans les camps. Et la plupart des gens envoyés dans les camps ne sont pas revenus. Donc, ça, c'est d'où vient le chiffre de 30 millions. Mais évidemment, on n'a pas documenté la mort de chacune de ces personnes. Mais en fait, entre 20 millions et 30 millions, c'est déjà tellement énorme, n'est-ce pas? Alors, donc, je reviens à la chose. Toutes les religions, et de nouveau la foi Baha'i, enseignent que l'homme, l'être humain, est la plus grande valeur créée par Dieu. Il n'a rien, sauf Dieu lui-même, il n'a rien de créé par Dieu qui soit plus élevé que l'être humain. Et en particulier, aucune doctrine, aucune idéologie ne peut être tenu comme supérieur à l'être humain. Tuer, c'est tuer. Dans la Bible, il dit, tu ne tueras point, n'est-ce pas? Tous les prophètes ont proscrit le meurtre, n'est-ce pas? Enfin, nommez-moi un prophète qui n'a pas proscrit le meurtre. Enfin, Mahomet aussi, Bouddha, etc., n'est-ce pas? Tous les prophètes ont proscrit le meurtre. Maintenant, encore une fois, je parle de l'individu. Je n'entre pas ici dans la question de guerre où une nation est attaquée. À ce moment-là, la nation, si elle est attaquée, a le droit de se défendre. Et ça, c'est un principe dans la foi Baha'i qui est très clairement articulé. Donc, par exemple, quand les nazis ont envahi la Russie avait le droit moral de se défendre, n'est-ce pas? Staline avait beau être aussi méchant qu'il était, mais quand les nazis ont envahi la Russie avait le droit moral de se défendre, n'est-ce pas? Donc, on ne prêche pas le pacifisme absolu, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Mais je parle au niveau individuel, ok? Et au niveau des idées. Donc, si je suis attaqué et je reprends une attaque physique. Ce n'est pas l'idéologie, ça. Ce n'est pas l'idéologie. Je parle de la tentative de justification morale pour l'assassinat ou l'oppression par des idées. Des idées qu'on tient pour supérieures à l'être humain. Je vous donne un dernier exemple qui peut-être peut illustrer la chose. Si je vous disais, ben, je connais un type qui a violé 30 femmes, qui a tué des petits-enfants, qui a tué des hommes, etc., qui a volé de l'argent, qui a brûlé des maisons, dit, mais c'est sans doute le pire type qui puisse exister, il faut le trouver, le mettre en prison. Et je dis, mais maintenant je vous dis que ce type est un héros dans son pays, parce qu'il a fait ça pour défendre la cause, de je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? Autrement dit, regardez à la télévision les hommes dans les les uniformes, n'est-ce pas, avec leur fusil à l'épaule et tout ça. Et vous demandez, mais est-ce que vous avez tué des personnes? Est-ce que vous avez violé des femmes? Mais bien entendu. Mais est-ce que vous n'avez pas peu honte de ça? Mais non! Ben, c'est-à-dire qu'on se défend, on défend notre cause est juste. Et ils ne défendent pas la cause. Quand on attaque physique, ce n'est pas le petit enfant qui va les attaquer, n'est-ce pas? Ce n'est pas la femme qui est violée qui va les attaquer. Ce n'est pas la réponse à une attaque physique, comme si vous m'agressez. C'est l'idéologie. Il y a un journaliste qui a dit la chose suivante. Il a raconté l'histoire suivante. Pendant la guerre de Bosnie, entre les Serbes et les Croates, et les musulmans aussi, en fait, surtout c'était à ce moment-là entre les Serbes et les musulmans en Bosnie, ce journaliste a voulu comprendre un peu plus près la nature du conflit. Alors, il se trouvait en fin de compte dans la cuisine d'une famille serbe où on prenait le thé ensemble et il parlait de la chose. Et ils disent, mais les musulmans, ce sont des monstres, ils mangent nos enfants, on fait toutes sortes de bêtises. Alors, il dit, mais est-ce que vous avez des statistiques? Est-ce que vous avez des exemples de ça? Mais tout le monde le sait, en fait. Pas besoin de justifier, tout le monde le sait, etc. Mais il dit, à un moment donné, il avait une femme qui traversait la rue, et la femme de la maison a pris un fusil, elle est allée à la fenêtre, elle l'a tuée. Elle dit, voilà une sale musulmane de moins, n'est-ce pas? Et elle retourne à la table de cuisine et continue à boire son thé. Absolument sans conscience. Alors ça, c'est l'idéologie. Ça, c'est l'idéologie. Autrement, et c'est peut-être le point principal, tous les prophètes nous disent, et tous les grands penseurs, tous les philosophes, tous les grands écrivains ont dit la même chose. La bataille entre le bien et le mal se fait au sein du cœur de chaque individu. Il n'y a pas des gens maléfiques qui sont l'origine de tous les maux et des gens gentils qui sont l'origine de toutes les bonnes choses. Il n'y a pas des méchants et les bons. La méchanceté et la bonté est un potentiel dans le cœur de chaque individu. Chaque individu. Et est-ce que c'est le potentiel du bien ou du mal qui domine? Ça, c'est selon les choix que cet individu fait. Donc, pensons à la chose suivante. Pendant 5 ou 6 000 ans de l'histoire, les hommes ont recherché le pouvoir les uns sur les autres. Ils se sont opprimés au nom de différentes idéologies. Enfin, Rome, Babylone, l'Égypte, tout ce que vous voulez, enfin, ok? Vous marchez à travers l'histoire, vous trouvez les clichés comme ça les uns après les autres. C'est des causes différentes, c'est des pays différents, c'est des idéologies différentes, mais les actions sont exactement les mêmes. Et les résultats sont les mêmes, n'est-ce pas? Comme Baha'u'llah l'a décrit. Alors, je propose la logique suivante. Si on continue à agir dans le présent, comme on a agi par le passé, notre futur sera la réplique de notre passé. Ok? C'est-à-dire, la seule façon d'avoir un avenir différent de notre passé, c'est de changer notre façon d'agir dans le présent. Est-ce que même le fait d'avoir un discours différent à propos de l'avenir, c'est-à-dire maintenant tout le monde parle d'éliminer la pauvreté, d'éliminer le racisme et tout ça, c'est très beau, c'est un premier pas si vous voulez, mais simplement le fait de parler d'une autre façon d'agir ne va rien changer non plus, tant que les gens n'agissent pas. En renonçant cette recherche du pouvoir, cet aveuglement par l'idéologie. Quand nous nous défendons, et ça, nous les individus, nous pouvons le faire, ça. D'ailleurs, c'est seulement nous qui pouvons le faire. Donc on ne peut pas, on peut blâmer, un Allemand pouvait blâmer Hitler d'avoir instauré le socialisme national en Allemagne, mais il ne peut pas blâmer Hitler si lui, il a choisi de le suivre, n'est-ce pas? Ça, c'est un choix qui est personnel. Donc, nous ne pouvons pas faire qu'il n'y a pas d'idéologue, mais nous pouvons faire que les idéologues n'ont plus de pouvoir sur nous, parce qu'on réfléchit, et ce n'est pas une grande réflexion, c'est simplement qu'on met en valeur les relations authentiques à chaque moment de notre existence, au lieu de, comme j'ai dit, de s'aveugler par différentes idéologies. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais dire.